Bonsoir, merci d'être venus nombreux ce soir. On est très heureux d'accueillir Jean-Louis Bruneau qui vient de nous parler de son dernier livre, Les Celtes, histoire d'un mythe. Donc, Jean-Louis Bruneau, vous êtes maintenant depuis près de 30 ans, d'après ce que
Plus,
j'ai, voilà,
plus, plus.
plus que 30 ans. Donc, vous êtes
40.
chercheur au CNRS, vous travaillez à exposer la nature de la Gaule, des Gaulois, et vous avez même un peu plus précisément travaillé sur la question de la religion des Gaulois, des druides et du druidisme. Alors, votre travail a toujours eu un double aspect. Alors, d'abord, ce qui n'est pas pour nous déplaire, ça a toujours été des livres avec une visée d'informer, on va dire, le grand public cultivé, avec toujours un double travail qui est un travail à la fois d'établissement des faits. Alors, ça va être l'une des grandes discussions de ce soir, mais pour autant qu'il puisse y avoir des faits sur un peuple pour lequel il n'y a quasiment pas de traces écrites, évidemment, et où les traces archéologiques sont compliquées à interpréter. Et du coup, cet établissement des faits est toujours allé de pair avec un souci de démythifier les Gaulois qui ont, au fil des ans, et c'est l'un des sujets aussi ce soir, sous différentes couches, alors aussi bien la culture populaire évidemment avec Astérix et Obélix, mais aussi même de façon plus inconsciente, ont sédimenté tout un tas de lieux communs dans la représentation et forcément pour nous Français, dans l'idée que nous nous faisons de notre propre peuple. Aujourd'hui, vous vous attaquez à un très gros morceau symbolique, les Celtes, avec un sous-titre qui dit quand même assez bien votre intention, puisque l'ouvrage est sous-titré, excusez-moi, Histoire d'un mythe. Donc c'est aussi un parcours en deux temps, où dans un premier temps, on va refaire le parcours du livre, mais dans un premier temps, vous évoquez un peu tout ce que les historiens, les géographes antiques ont pu dire des Celtes, hein, tout ce qu'on sait des Celtes par ce savoir-là. Comment, et alors c'est l'une des choses, moi je trouve, les plus intéressantes dans le livre, les Celtes en fait disparaissent pendant quasiment 15 siècles, avant de reparaître à la Renaissance, d'abord plutôt dans les cercles érudits, et avant de connaître, on va dire fin 18e et surtout à partir du
19e.
19e, une sorte d'explosion dans la représentation d'abord intellectuelle puis populaire jusqu'à maintenant où on a donc le festival interceltique de l'Orient
Voilà.
avec des où les Celtes sont un peu partout et comme vous l'expliquez généralement quand quelque chose est partout c'est qu'il est à peu près nulle part.
Voilà, vous avez tout compris.
Donc peut-être pour commencer alors on va dire l'ouverture du livre. On sent chez vous presque un agacement, pour être dans l'euphémisme, presque un agacement sur la façon dont cette idée de Celte est mise à toutes les sauces. Alors, comment, effectivement, est-ce que c'est vraiment un livre on va dire, d'énervement ou est-ce que c'est aussi une réflexion un peu plus longue sur mais qu'est-ce que c'est que ces Celtes dont on ne cesse de me rabattre les oreilles alors qu'au final les Gaulois sont relégués à d'autres.
Non,
d'autres
non,
choses.
Je vais vous rassurer, ce n'est pas du tout un livre polémique, même s'il peut effectivement, de temps en temps, laisser transparaître de l'humeur, ce qui est normal. Non, non, j'ai écrit ce livre, et je suis content de votre question, j'ai écrit ce livre par nécessité et aussi par honnêteté. Donc, par nécessité, à la fois pour moi et à la fois pour vous, enfin, tous les lecteurs potentiels, parce que je me rends compte, et je me suis servi d'une phrase du journal de Jules Renard où il dit. Celte, je n'ai jamais su ce que ça pouvait être. Et en fait, c'est le sentiment que j'ai depuis 40 ans que je travaille sur ces questions-là, puisque vous avez oublié de rappeler que je suis aussi un archéologue.
Oui, pardon.
Donc, je suis un homme de terrain, pas seulement un homme de cabinet. Et donc, j'ai fait beaucoup de fouilles dans ma vie. Et en fait, je me pose cette question depuis 40 ans. Et alors que mes collègues autour de moi utilisent le terme celte en équivalent du terme gaulois. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et cette nécessité est devenue plus impérieuse, puisque maintenant, depuis au moins une dizaine d'années, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur les Gaulois. Donc en ne m'occupant plus du tout de cette question des Celtes, et je pense que effectivement mes lecteurs ou le public en général est amené à se poser des questions. Donc j'ai voulu faire cette part des choses. Donc encore une fois, c'est pas un livre polémique, c'est un livre de recherche de fond. qui est assez ambitieux puisqu'il retrace l'histoire des Celtes depuis moins 600, alors, je vous expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure, jusqu'à nos jours. Et donc c'est toute une histoire qui, une recherche à la fois historique, mais aussi une recherche dans les sciences sociales, puisque depuis 3 siècles, les Celtes sont devenus aussi sujets d'études pour différentes sciences sociales.
Alors, vous évoquiez la distinction terrain-cabinet. Oui. Elle est d'autant plus intéressante que c'est une distinction qui se pose dès les historiens et les géographes antiques, puisque votre livre s'ouvre donc sur une sorte de généalogie de comment est-ce que les Celtes apparaissent dans la littérature historique antique, avec quand même une grande distinction entre les géographes historiens qui ont fait plus ou moins le déplacement jusqu'en Gaule, donc, et ceux qui, comme c'était quand même souvent le cas à l'époque antique, étaient essentiellement des compilateurs de ce point de vue-là. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous dire, dans l'état actuel de la connaissance des textes antiques, qu'est-ce que ces historiens, ces géographes nous disent des Celtes ? Est-ce que c'est un nom fréquent chez eux ? Est-ce que ça apparaît régulièrement ? Est-ce qu'il est univoque ? Ou au contraire, est-ce qu'il est extrêmement flou ? Parce que dans notre esprit à tous, on pense Celte, on pense immédiatement Bretagne. Oui. Et je pense que l'un des intérêts de votre livre, c'est que, mis à part sur la fin,
oui, j'en parle un petit peu.
Il n'est quasiment pas question de la Bretagne, pas. À peine de l'Irlande, alors qu'on a dans la vision, parce qu'elle est justement entachée de ces mauvaises images, entre guillemets, on a une sorte de vision d'arc celtique qui irait de la Galice jusqu'à l'Irlande, en passant par la Bretagne. Pour les historiens antiques, en nous présentant un peu ces historiens, qui étaient les Celtes ? Est-ce qu'ils existaient seulement pour eux ?
Oui. Alors, avant de répondre à votre question, pourquoi on s'intéresse aux historiens antiques ? Parce que c'est une obligation. Donc, quand j'ai voulu répondre à cette question, qu'est-ce que les Celtes ? Il y a tellement de définitions possibles. Tout de suite, je me suis dit, il faut revenir aux plus anciennes occurrences du mot. Et donc, on repart dans l'histoire ancienne, dans l'histoire antique, et on s'aperçoit que le mot apparaît aux environs de moins 600, encore une fois, en liaison avec la fondation de Marseille. Et il est écrit, enfin, sous une forme un peu particulière, par Hécaté de Milet. Hécaté de Milet, c'est le père de la géographie, si vous voulez, en quelque sorte. C'est le premier géographe de l'Antiquité qui a écrit des itinéraires, parce qu'on ne faisait pas encore de précise géographie. Donc, il a fait un itinéraire pour les marins, essentiellement, autour de la Méditerranée. Et à ce propos, parlant de Marseille, il dit qu'à proximité de Marseille se trouve la Celtiquée. Donc, ce n'est pas les Celtes qui apparaissent en premier. C'est déjà un territoire dont le nom est substantivé par les Grecs, hein, qui en ont l'habitude, et qui montre que les Grecs, déjà, même vers moins 600, étaient déjà habitués depuis un certain temps à ces noms, à ces hommes, puisqu'il leur avait déjà attribué un territoire. Et ça, c'est confirmé par Hérodote une cinquantaine d'années plus tard, qui dit que les Celtes se trouvent le long des Pyrénées et jusqu'à l'océan. Alors, ça, évidemment, ça nous interroge. Ce n'est pas du tout là où on les attend, et ce n'est surtout pas là où un certain nombre de mes collègues, depuis une trentaine d'années, les placent, puisqu'ils les plaçaient en Europe centrale. Or, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Les historiens les plus fiables, Hécaté de Milet est quelqu'un de fiable, Hérodote tout à fait, Hérodote lui c'est le père de l'histoire, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, les place donc en gros, si vous voulez, dans le Languedoc, autour du Massif central, et ensuite on a un certain nombre d'historiens, jusqu'à César, qui nous confirment la chose, puisqu'on a chez Tite-Live le souvenir des fameuses invasions gauloises, notamment en Italie. Il nous dit que ces invasions ont été décidées par un certain roi Ambigate, qui lui-même était roi de la Celtique. Et ce Ambigate était aussi chef des Bituriges, donc de la région de Bourges. Donc vous voyez, tout ça se tient très bien. Et tout ça nous amène jusqu'à César, qui nous dit, en première ligne de son ouvrage « La guerre des Gaules », il nous dit « La Gaule est divisée en 3 ensembles, les Celtes au centre, les Belges au nord et les Aquitains là où nous sommes. » En gros, on est à la limite. Donc, vous voyez, il y a une véritable cohérence. Quand on parle des Celtes, enfin, notamment les historiens grecs anciens, les situent en Gaule. Alors, vous vouliez savoir si ce terme était très employé, est-ce qu'il était employé partout ? Par tous, non. C'est ça qui est assez curieux, c'est-à-dire que les Grecs, au départ, ne parlent que des Celtes, alors que les Romains ne connaîtront que les Gaulois. Alors, vous voyez, c'est déjà assez compliqué. Mais je vais peut-être revenir sur la réalité de ces Celtes, si vous voulez. Donc, parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on les place là, il faut encore savoir qui ils sont, à quoi ils correspondent. Et tout de suite, on s'aperçoit que ce ne sont pas, c'est pas une race, évidemment, c'est pas une ethnie. Ce sont des indigènes qui se trouvent en arrière de la côte méditerranéenne et qui sont connus par les phocéens, donc des Grecs qui viennent d'Asie mineure et qui veulent faire du commerce. Et en fait, mon enquête aboutit à cette conclusion, c'est qu'un certain nombre de peuples, donc dans le sud de la Gaule, sont obligés de s'organiser pour répondre à cette demande de commerce méditerranéen. D'abord parce que ces indigènes, depuis peut-être le deuxième millénaire, n'ont jamais laissé les Phéniciens, par exemple, ou même des peuples plus anciens, s'établir sur le rivage de la Gaule. Donc ils étaient quand même assez puissants. Et ensuite, ils arrivent quand même à commercer. Et à un moment, ils font un traité avec les Phocéens pour l'installation de Marseille. Ce commerce est extrêmement florissant. Alors pourquoi il se fait ? Parce que les Grecs sont des grands consommateurs de bronze, vous le savez, avec les statues, tout un tas d'objets, et ils ont besoin pour ça d'étain. Or, les Carthaginois, enfin les Phéniciens, plus anciennement on parle de Phéniciens, leur ont coupé les mines d'Espagne. Donc il faut qu'ils aillent le chercher ailleurs, il faut absolument qu'ils le trouvent en Gaule, et donc c'est impératif pour eux de le faire. Donc il y a une forte demande, d'autant plus que le minerai d'étain en Gaule n'est pas si, enfin en Gaule, en France si vous voulez, n'est pas si abondant que ça, et donc il faut aller le chercher très loin, et très tôt il a été recherché jusque dans les îles britanniques. Ce qui oblige non pas les Grecs à traverser la Gaule, mais les Gaulois, les indigènes, à s'organiser eux-mêmes, pour faire ce commerce à la place des Grecs. Et donc, ça suppose toute une organisation, une entente entre eux, parce que très rapidement, des grandes voies traversent la Gaule, avec toute une organisation de transport, de convoyage, tout ça pour arriver à des flux de marchandises qui sont extrêmement rapides. On sait qu'aux environs du IIe siècle avant Jésus-Christ, on traverse une grande partie de la France, entre l'embouchure de la Seine, pratiquement jusqu'à Lyon, en 30 jours pour des ânes bâtés transportant de l'étain. Donc c'est aussi rapide que les derniers temps de l'Ancien Régime, si vous voulez. Donc ça suppose qu'il y a eu des infrastructures absolument importantes qui ont été faites, et forcément il y a eu des accords diplomatiques entre tous ces peuples qui ont abouti à une confédération. Et en fait, les Celtes, c'est une confédération, tout simplement. Donc ce sont des gens qui se sont en quelque sorte désignés eux-mêmes face aux étrangers comme des Celtes. Alors, on ne sait pas la signification de ce mot. C'est probablement quelque chose comme les compagnons, les associés, quelque chose comme ça. Mais les Grecs, évidemment, eux, ils ont donné des fausses étymologies. Ils avaient l'habitude de toujours tout s'approprier. Mais c'est un mot indigène. Donc voilà, en quelque sorte, et résumé grossièrement, mais on pourrait y revenir, quelle est la réalité ancienne de ces Celtes ? C'est une confédération qui, au départ, concerne les bords de la Méditerranée et qui très rapidement englobe une grande partie du territoire de la Gaule jusqu'à la Loire. Et c'est ainsi que la retrouve, alors là, un grand savant qui est quelqu'un d'extrêmement fiable, puisqu'on parlait justement de la différence entre les bons auteurs, les mauvais auteurs. Il y a un auteur qu'on connaît mal parce que malheureusement ses œuvres ont en grande partie disparu, mais on les reconstitue, rassurez-vous, je vous expliquerai comment, et qui s'appelle Posidonios d'Apamée. Et Posidonios d'Apamée, qui a voyagé dans les années 100 avant Jésus-Christ, et notamment le long de la Garonne, il est probablement passé ici, lui a décrit la Gaule, il a rencontré les druides, il a fait une description de la Gaule, une description des habitants, un premier essai d'ethnographie, donc c'est le premier ethnographe de l'Antiquité. Donc grâce à lui, on a une vision à la fin du IIe siècle, où on voit ces Celtes qui occupent une grande partie de la Gaule, et qui domine culturellement les peuples environnants, qu'il appelle les Galates, qui correspondent en gros à la Gaule telle que César l'entend, c'est-à-dire des bouches du Rhin jusqu'au plateau suisse, presque jusqu'à la Bavière, jusqu'à l'Italie et jusqu'à l'Espagne. Donc voilà en très résumé un petit peu quels sont ces Celtes historiques.
Voilà, alors ce qui est extrêmement important, me semble-t-il, et ce sur quoi votre livre nous renseigne beaucoup, c'est justement cet état de la relation entre donc, ce qu'on va appeler les Celtes et les Grecs. puisqu'on a toujours, on a tendance à avoir une vision de l'histoire de la Gaule, parce qu'elle est liée à la guerre des Gaules de Jules César. Hein, et on verra justement au moment de la renaissance de la notion celte au XVe siècle, le rôle décisif que joue cette lecture-là. Absolument. Or, ce que vous montrez, c'est que il n'y a pas une sorte d'invasion romaine qui va mettre en haut, sous le joug un peuple établi, mais au contraire, on a déjà toute une population, donc cette confédération celte, qui est depuis plusieurs siècles dans une discussion, dans des échanges avec les Grecs, et que les Grecs, d'ailleurs, on verra d'ailleurs, vous l'évoquerez, je pense, mais le retournement de perspective des Grecs, l'une des caractéristiques que leur accordent systématiquement les Grecs, c'est leur caractère philhellène. C'est-à-dire, c'est dire il y a, donc, au-delà de Marseille, un peuple qui aime bien les Grecs, en gros. Voilà. Et comme vous le disiez pour les étymologies, les Grecs, pour montrer que ces gens-là aiment bien les Grecs, la preuve, c'est qu'ils ont les mêmes dieux. Voilà. Il y a au moins quelques dieux qui se croisent, alors paraît de façon probablement un peu mythique, hein, de la part des Grecs. Mais ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est aussi ce moment-là, c'est de se dire, cette période qu'on connaît encore moins bien que la période gauloise, qui est cette période donc, du 6e au 1er avant Jésus-Christ, dans lequel, effectivement, c'est pas tout d'un coup les Romains découvrent les Gaulois. C'est les Grecs, il y a énormément d'échanges, et vous montrez même que pour que cette confédération ait lieu, et puis on le verra après avec la question des mercenaires, ça suppose... pas un État, mais ça suppose néanmoins une structure d'organisation très élaborée. C'est pas simplement des villages qui s'agrègent entre eux.
Absolument, oui, oui. Donc vous faites bien, effectivement, de mettre l'accent sur l'influence grecque via Marseille, hein, puisque là, c'est Marseille qui joue le plus grand rôle. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la civilisation celtique, je préfère qu'on appelle la civilisation gauloise, parce que sinon, effectivement, on tombe dans la confusion que j'ai essayé d'éviter. Cette civilisation gauloise, qui au départ est fabriquée par ces Celtes de la Gaule, c'est une civilisation qui est entièrement en osmose avec le monde grec, mais qui est une civilisation originale, puisque ce n'est pas une importation des valeurs grecques, des idées grecques ou même des modes de vie grecs en Gaule, mais c'est vraiment un mélange parfaitement harmonieux, effectivement, avec une entente parfaite avec ces Grecs, avec ces commerçants, et un respect mutuel qui s'explique par, à la fois par la nature des indigènes et par la nature des Grecs, puisque les Grecs sont des commerçants un petit peu particuliers, puisque eux-mêmes ne parlent pas les langues étrangères, donc c'est déjà assez difficile, et font faire une partie du travail, comme je vous l'ai indiqué, par les indigènes eux-mêmes, ce qui effectivement laisse beaucoup de latitude à ces indigènes qui ne se sentent pas envahis comme ils le sentiront plus tard, notamment avec les Romains. Donc ça, c'est effectivement cette grande différence.
Et parce que ça me semble important, dans la mesure où on le retrouvera aussi au moment de la Renaissance, dans tous les sens du terme, de la Renaissance à la Renaissance, oui. cette présence d'Héraclès et de Dionysos, dans la mesure où elle n'est pas, d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas purement inventé par les Grecs. Il y a quand même des éléments de traces, de croisements mythologiques entre des croyances grecques et ce qu'on peut savoir de croyances gaulo-celtes.
Oui, oui. Alors là, on tombe un petit peu dans le domaine de la religion, qui est ma spécialité. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce qui m'avait amené sur ce terrain de voir les rapports justement avec la Grèce, c'est-à-dire que par la religion, on s'aperçoit que ce monde gaulois est un monde civilisé. Parce qu'il a une religion qui est très particulière, c'est-à-dire que c'est une religion où on fait des sacrifices d'animaux domestiques, où on fait des offrandes, et surtout on a des lieux de culte qui sont parfaitement établis, qui sont pérennes, et qui sont très semblables dans la conception, dans la configuration, à ceux des Grecs et des Latins. Donc c'est pas étonnant qu'ensuite on trouve des choses qui semblent se croiser, qui semblent s'influencer, parce que ce sont des peuples, donc les Gaulois comme les Grecs et les Latins, qui ont un petit peu les mêmes mécanismes de pensée, c'est-à-dire que ils font des choses positives pour les dieux. C'est pas, on ne massacre pas les humains, par exemple. Et c'est aussi pourquoi arrive Héraclès, donc pourquoi les Grecs situent les aventures d'Héraclès, notamment en Gaule. En fait, des collègues chercheurs en histoire antique ont montré que Héraclès était un bon marqueur justement de la colonisation grecque ou de l'influence grecque en pays barbares. C'est-à-dire que partout où il y a des légendes d'épisodes, notamment d'Héraclès, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Gaule, ça veut dire que les Grecs ont estimé que les peuples étaient devenus en quelque sorte des semi-hellènes. Non seulement ils sont philhellènes, mais ils sont presque hellénisés. Donc ça, c'est un très bon marqueur. Alors quant à Dionysos, bon là, c'est des choses plus anecdotiques, mais qui sont étonnantes, puisque notamment Posidonios rapporte qu'il y avait un culte en Bretagne.
Quand même, un peu des Bretons.
Voilà, un peu des Bretons, où on honorait une sorte de Dionysos. Alors, ça, c'est les grands mystères, et moi, je ne peux pas en dire grand-chose. On ne sait pas comment interpréter ça, parce que là, effectivement, les Grecs ont tendance un petit peu à voir ce qu'ils aimeraient voir chez les Grecs, et on ne sait pas jusqu'à quel point il faut leur faire confiance, donc ils trafiquent un petit peu la réalité. Mais ça montre que ces Grecs se sentaient en territoire connu quand ils venaient en Gaule. Ça, c'est important.
Alors, il y a deux choses qu'on l'a évoqué en passant très brièvement, mais ce qui va aussi déterminer donc toute la création du mythe celte, mais c'est vrai d'une certaine façon aussi pour les Gaulois, c'est que n'ayant pas d'écriture et n'ayant pas de traces écrites de la part des Gaulois, nous n'avons donc que cette interprétation par les historiens grecs. Vous notez, les voyageurs grecs ont forgé la matière de l'identité celte, et un peu plus loin, les Celtes sont une pure création intellectuelle des Grecs. Je l'évoquais en passant, avec un moment justement de choses qui s'enchaînent, c'est à la fois un retournement dans la perception des Celtes par les Grecs, où justement on quitte le fil hellénisme, et les Gaulois, les Celtes sont vécus comme hostiles, nous dire pourquoi. Et l'autre point qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui servira de point de départ, à savoir la guerre des Gaules de César, en fait, est l'une des dernières mentions antiques, et est une mention au moment où, en fait, probablement, et vous allez aussi nous dire pourquoi, les Celtes n'existent plus. Enfin, voilà. Cette confédération est déjà quasiment moribonde, avec quand même une part de mystère sur à quel moment ça a cessé, pourquoi ça a cessé.
Il n'y a pas effectivement un avis univoque sur les Celtes de la part des Grecs pendant une longue période. C'est-à-dire que les Celtes sont considérés comme philhellènes, effectivement, à l'époque, en gros, où Marseille est florissante. C'est surtout ça. Et en fait, quand l'influence de Marseille, le commerce de Marseille dans la Méditerranée est en baisse, là, les parcours ne se font plus par Marseille et les Grecs perdent contact en quelque sorte avec les Celtes et les Gaulois et ils oublient un petit peu qui ils sont. Et surtout, il se passe quelque chose d'un petit peu ennuyeux, c'est qu'apparaît un historien qui fait le plus grand tort aux Celtes. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Éphore. Et qui était un élève d'Isocrate, Isocrate étant un grand maître de rhétorique. Et lui était un si mauvais élève que Isocrate lui a demandé de ne pas faire de rhétorique, de faire autre chose.
On sent que vous avez assez peu de considération pour Éphore. Voilà,
Éphore, c'est vraiment l'historien de cabinet, donc il décide de faire de l'histoire. Et ceci étant, c'est un personnage très intéressant quand même, parce qu'il fait de l'histoire mondiale. Et c'est le premier historien antique à faire une histoire mondiale et avoir l'idée, enfin d'avoir deux idées un petit peu géniales. D'abord, de faire une chronologie beaucoup plus fine, et il y arrive. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Et surtout, de ce qu'on fait habituellement maintenant, notamment dans les grands livres d'histoire, de faire une carte qui accompagne son histoire. Et donc, il veut faire une carte. Malheureusement, sa carte est schématique. Pour lui, le monde habité, c'est un rectangle qui correspond en gros aux alentours de la Méditerranée. Et comme il ne sait pas où ce monde s'arrête dans les quatre grandes directions, il a l'idée un petit peu baroque de vouloir l'arrêter par des grands peuples. Et donc, il décide qu'au nord, ce seront les Scythes, à l'est, ce seront les Indiens, au sud, ce seront les Éthiopiens, et à l'ouest, il ne sait pas trop qui il va mettre. Et finalement, il prend les Celtes, parce qu'il a vu ça dans ses lectures. Et au passage, évidemment, il oublie complètement les Ibères, qui étaient plus connus en Grèce à un certain moment que les Celtes. Et puis, les Scythes ne sont jamais venus jusque chez les Celtes. Alors, vous voyez, c'est extrêmement schématique. Mais à cette époque-là, comme il n'y a plus d'informations géographiques et historiques qui viennent de Marseille, qui peuvent en quelque sorte renseigner la Grèce, Les Grecs, ça leur suffit. Ce ne sont pas des grands géographes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ils se contentent de ce que dit Celte. Et à partir de ce moment, les Grecs ne verront plus que des Celtes dans cette région. Donc ça va introduire une grande confusion, parce que lorsque des Gaulois, et notamment des Celtes de la région centrale de la Gaule, vont faire une nouvelle invasion, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi, en Grèce, la fameuse invasion qui mène à moins de 180, l'attaque du sanctuaire de Delphes, l'attaque de la Macédoine, etc., et l'installation des Gaulois en Asie mineure, ces gens-là se présentent en disant « nous sommes des Galatas ». C'est le nom indigène des Gaulois. Nous sommes Galatas. Et les Grecs ne sont plus capables de comprendre que ce sont les Celtes, ce sont les mêmes, qui viennent de la même région. Et donc, ils dissocient complètement. Et donc, ça amène une confusion terrible, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, du côté des Romains, les Romains ne connaissent pas le terme de Celtes. Eux ne connaissent que les Gallies, qui est une déformation ironique, certainement, du mot, encore une fois, Galata, qui était le mot avec lequel les envahisseurs de la Cisalpine se sont présentés aux Étrusques et aux Romains. Et les Romains, qui sont des petits farceurs, en quelque sorte, qui aiment bien comparer les gens avec des animaux, ont comparé ces Galatas, qui étaient des guerriers braillards, etc., avec le coq, Gallus en latin. Probablement, enfin, c'est l'une des origines possibles. Et donc, pour les Romains, les Celtes n'existaient pas. Pour les Grecs, ils ne voient plus le rapport entre Celtes et Galates. Et donc, ils ont cette très mauvaise image de ces habitants de la Gaule qui sont des envahisseurs, qui pillent Delphes. Et donc, on aura, à partir de ce moment, une très mauvaise image de ces habitants.
Et donc, en fait, ce que vous nous dites, ce ne sont pas les Celtes qui disparaissent, c'est le non-Celte. Plus qu'autre chose.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Mais la Confédération elle-même, telle que vous l'avez décrite, elle décline avec Marseille. Et
Oui, c'est-à-dire que le but de cette Confédération, enfin la nature de cette Confédération, c'est vraiment une Confédération de nature, au départ commerciale et ensuite politique, c'est de correspondre au marché, qui est concerné par les produits méditerranéens. Et ce marché n'est finalement contrôlable que dans un espace qui est extrêmement vaste, mais qui doit quand même être délimité. Et en fait, cet espace délimite avec des frontières naturelles, donc avec les montagnes, avec les mers, et puis le Rhin, parce qu'il faut effectivement mettre des barrières, et parce que aussi il y a, ça serait toute une discussion qu'il faudrait entreprendre, il y a aussi les druides, qui eux aussi, très influencés par la philosophie grecque, travaillent à construire ce pays. Et en fait, cette Gaule, c'est une construction un petit peu utopique de la part des druides, c'est une construction déjà idéologique, effectivement, commercial et politique, et qui cherche finalement à se substituer à cette confédération celte. Et ça, c'est quelque chose qui se produit certainement assez précocement, aux environs du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et quand Posidonios, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 100 arrive, déjà ce que les druides lui racontent en lui disant qu'il y a des celtes dans le centre de la Gaule, etc., c'est déjà un petit peu du passé, c'est déjà de la théorie. Et alors, quand César en parle, là, ça n'existe vraiment plus. Ce qui existe, en revanche, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est que ces peuples de la Gaule centrale, de cette ancienne confédération celte, eux sont restés très habitués au contact avec les étrangers. Et comme Marseille ne fait plus son travail, depuis le 3e siècle, ils sont habitués avec les Romains. Et effectivement, ce sont ces habitants, c'est ceux que César appelle les Celtes, les habitants de toute la partie centrale de la Gaule, le massif central jusqu'au Languedoc, ce sont ces habitants qui vont faire venir les Romains, qui vont ouvrir la porte de la Gaule à Rome, qui vont collaborer et qui feront que, en réalité, ça c'était le sujet d'un précédent ouvrage, Alésia, la conquête de César est un peu une fausse conquête parce qu'elle a été en grande partie faite par les Gaulois eux-mêmes qui ont attiré les Romains et surtout le commerce avec Rome sur leur pays. Donc on est toujours dans une ambiance commerciale.
Donc, ce qui est extrêmement intéressant, alors on y reviendra à la fin parce que c'est l'un des grands enjeux dans la représentation contemporaine des Celtes, mais c'est d'après ce que vous nous dites, donc ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas un peuple, et il n'y a pas de culture matérielle spécifique aux Celtes, donc il n'y a pas ni une symbolique, ni des objets particuliers, etc. Non. Donc on verra, c'est d'autant plus passionnant comment, du coup, on verra comment au 19e et au 20e s'est créée toute une mythologie de ce côté-là, de voir que dans l'état actuel des connaissances, il n'y a rien de tout ça. Non. Donc, les Celtes, le nom Celte disparaît. Après, donc on jette un voile pudique sur, sur 15 siècles d'histoire de France, si on peut dire. Pour arriver donc, à ce moment, à peu près donc, au 15e, 16e siècle, où les Celtes vont ressurgir. Parce qu'en fait, dans la succession des Romains, puis après des Francs, reste à savoir aussi est-ce que c'est une invasion ou pas. Voilà. donc chacun s'invente des généalogies en essayant de d'enlever la strate précédente pour oublier qu'on s'est opposé à ceux qui étaient là avant. Mmh. Et arrive donc la Renaissance, qui est un moment. Alors, ce n'est pas pour rien que les Celtes ressurgissent à ce moment-là, puisque la Renaissance est donc le moment de grande redécouverte des textes antiques que vous évoquez, qui sont donc la seule source pour qu'on puisse retrouver le mot celte, avec quand même cette question assez importante que vous soulevez, c'est pourquoi cela, plutôt que les Ibères ou plutôt que d'autres, pourquoi est-ce que c'est ce nom-là qui va susciter cet envol symbolique dans l'esprit des érudits du XVIe?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mystère. Normalement, le nom des Celtes aurait dû être oublié. Parce qu'en gros, on a trois gros peuples comme ça, indigènes, qui ont la même situation que les Celtes. On a les Ibères, dont vous venez de parler, et les Thraces, donc le long de la mer Noire, qui sont un petit peu dans le même cas. Ce sont des grosses entités de peuples qui ont été connues très tôt, essentiellement par les Grecs, à une époque très ancienne. Même pour les Thraces sont connues de l'époque d'Homère. Donc Homère parle des Thraces, Hérodote en parle encore un petit peu, et très vite, ces Thraces sont oubliées parce qu'on préfère parler des Jettes, des Daces et d'un certain nombre de peuples qui font partie de ce grand ensemble qui est une sorte de gros sac en quelque sorte dans lequel on peut mettre n'importe quoi, comme dit Tolkien. Et pour les Ibères, c'est pareil. Les Ibères, on en parle à une époque très haute et ensuite on parle des différents peuples d'Espagne. Et à l'époque romaine notamment, il n'est plus question d'Ibères, ça n'existe plus. Donc normalement, les Celtes auraient dû disparaître de l'univers historique. Effectivement, c'est un mystère. Pourquoi ils ressurgissent à la Renaissance ? Bah pour des raisons certainement extrêmement compliquées que j'aurai un petit peu de mal à vous résumer là très vite, mais entre autres, il y avait cette piste des Francs, etc. C'est-à-dire que le Moyen-Âge a installé un petit peu de confusion dans tout ça. C'est-à-dire que les Gaulois ont été en partie dominés par l'administration romaine. Et puis surtout, il y a eu l'arrivée de ces hordes germaines, certainement arrivées d'ailleurs en petit nombre, donc notamment ces Francs, et ces Francs qui ont donné leur nom à l'ancienne Gallia. Donc la Gallia a disparu, la province, enfin l'ensemble des provinces romaines, les Galliae plus précisément, ont disparu au Moyen-Âge, au profit de la Francia. Donc, déjà, les habitants de ce pays ont perdu un petit peu le contact avec leurs ancêtres immédiats, les Gaulois et les Romains. D'autant plus que ceux qui avaient un contact avec l'érudition, donc le clergé, la noblesse, eux se réclamaient des Francs. Et notamment, ils se réclamaient des Francs parce que, disaient-ils, les Francs... Nous, on en est les descendants, disaient les nobles, et on profite du droit du plus fort. Donc les fiefs qu'on a, c'est grâce aux Francs qui ont battu les Gaulois. Donc on ne pouvait pas se réclamer des Gaulois. Donc à la Renaissance, bon, on sort un petit peu la tête de ces querelles un petit peu très basses, et surtout on découvre les textes antiques, et il faut faire un peu une synthèse de tout ça. Et puis, surtout, on commence à découvrir des ancêtres, mais des ancêtres qu'on n'accepte pas tellement, parce que ces Gaulois, d'abord, ils sont vaincus, puis on n'a aucune trace d'eux. Et donc, à la Renaissance, on s'aperçoit que dans le paysage français, il y a partout des monuments qui sont absolument extraordinaires. Pensez à au théâtre d'Orange, au Pont du Gard, etc., qu'on sait être romain et qui vont être d'ailleurs des canons pour l'esthétique de la Renaissance. Donc il est difficile de se réclamer des Gaulois. Donc vous voyez, c'est très complexe. Et puis on découvre aussi une langue, le gaulois, dont on s'aperçoit qu'elle est aussi ancienne que le latin et le grec. Alors ça, ça attire quand même les érudits, et notamment les protestants vont avoir un rôle très important, puisque très vite, ils vont devoir émigrer en Allemagne, et ils savent qu'il y a cette langue gauloise dont ils ne veulent pas faire, en quelque sorte, la propriété des Français. Donc ils veulent la partager avec les Allemands. Et comment faire ? Certainement pas en l'appelant gauloise. Donc il faut trouver un autre terme, et c'est à ce moment-là que dans leur lecture, et notamment dans leur lecture des textes grecs, ils trouvent l'ouvrage de Strabon, donc la géographie pour ceux qui connaissent, où Strabon, en bon successeur d'Effort dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui parle abondamment des Celtes. Donc il ne parle pas de Gaulois, il reste dans une terminologie grecque, il ne parle que de Celtes. Et ces auteurs de la Renaissance trouvent là vraiment la clé pour contenter tout le monde, en quelque sorte, en disant on va les appeler Celtes et on va appeler la langue gauloise, la langue celtique. Comme ça, elle sera à la fois l'ancêtre de la langue française et l'ancêtre de la langue allemande. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que les choses se passent.
Oui, tout ça est quand même sous-tendu par une... Et ça court jusqu'à nos jours, c'est une grande obsession généalogique.
Ah, tout à fait.
Il y a quand même tout ce qui court au travers de votre livre, c'est de montrer... Alors, c'est une obsession qui est d'abord une obsession d'érudit, et puis après une obsession plus populaire. C'est une obsession généalogique, alors qui en elle-même n'est pas condamnable, mais qui, assez rapidement, se transforme en obsession de l'autochtonie, c'est-à-dire l'idée de toujours chercher de qui on descend, et il faut forcément que celui dont on descend ait les plus grandes vertus, soit le plus pur et été le moins mélangé possible. Et donc on voit déjà là comment, quelques siècles plus tard, et essentiellement au XXe, les dérives que ça va ouvrir. Donc effectivement, la généalogie par les peuples, dans un premier temps, ne fait pas ressortir des Celtes, c'est vraiment la question de la langue qui va les faire ressortir. Et donc, on arrive au troisième moment, si l'on veut, qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, comment est-ce que... Parce que cette question de la langue celtique, elle ne touche quasiment personne. Enfin, c'est vraiment une discussion de cabinet. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'aura pas autant de livres sur les Celtes si c'était resté une question linguistique. Mmh. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire ce processus qui va glisser du 18e au 19e, comment la question érudite va après toucher, on va dire, ces cabinets de ce qu'on appelle les antiquaires, qui sont, on va dire, des savants de province, sans offense pour la province, ou président, et pour après avoir une ampleur plus grande, avec moi une notion qui me semble extrêmement importante et que vous reprenez au grand historien anglais Hobsbawm, qui est la question des traditions inventées. Mmh. Parce que tout ça va finir comme ça, c'est-à-dire que comment les Celtes sont devenus un objet populaire ? Comment c'est devenu une tradition ? Comment c'est devenu un objet où on se dit, enfin, tout un tas de gens se disent, nous sommes Celtes. Mm-hmm. Et ce qu'on fait, c'est celtique.
Oui, bah alors, on pourrait répondre soit vraiment en entrant dans les détails pour toute cette période, sur pratiquement 3 siècles de construction idéologique. Donc là, ça nous prendrait effectivement...
On
pourra reprendre après dans le détail un certain nombre de points. Mais sinon, la raison fondamentale, c'est qu'il faut effectivement... Pour répondre à ces attentes généalogiques, à ces attentes d'une langue aussi, mais à chaque fois, effectivement, que ce soit pour la langue, que ce soit pour les individus eux-mêmes, il faut que à la fois ces porteurs de langue et cette langue s'y prêtent. Et il faut qu'elles soient très malléables. Or, c'est le cas des Celtes. On sait tellement peu de choses d'eux. C'est tellement, impalpable, en quelque sorte, qu'ils se prêtent effectivement à toutes les manipulations idéologiques. Ce qui n'est pas le cas pour les Gaulois, parce que pour les Gaulois, bon, on a quand même un certain nombre de textes, on a même beaucoup de textes, et on a quand même aussi des réalias archéologiques. Pour les Celtes, très tôt, on en a fait un objet extrêmement diffus, extrêmement confus, qui a pu être réutilisé à toutes les sauces, aussi bien donc, pour les linguistes, hein, Bon, là, je vous ai parlé de la découverte de la langue gauloise qui tout de suite a été appelée celtique. Et plus tard, on a découvert, donc là, c'est quand la linguistique est apparue, notamment au XVIIIe siècle, et puis ensuite au XIXe siècle, on a défini un groupe de langues proches de la langue gauloise. Et encore une fois, il a fallu lui donner un nom. Et on a donné le nom générique de langue celtique au pluriel, parce qu'il ne fallait pas les appeler gauloises. Parce que les linguistes à cette époque-là, les grands linguistes étaient allemands, et il n'était pas question d'appeler ce groupe de langues les langues allemandes. Donc vous voyez, c'est toujours cette même histoire. Avec l'idéologie indo-européenne, c'est un peu la même chose. Les Celtes se prêtent parfaitement à entrer dans l'idéologie indo-européenne qui est extrêmement floue, extrêmement vague. Et puis après, effectivement, on arrive à ces traditions inventées. Donc là, ça mérite peut-être quand même effectivement beaucoup plus d'explications. Effectivement, c'est une théorie, c'est un concept qui a été défini par un historien anglais qui s'appelle Hobbes Baum, qui est mort récemment, justement, et qui montrait qu'il existait ces traditions inventées, cette façon de créer, de faire revivre du passé, de le remettre en scène en quelque sorte. Et c'est surtout quelque chose qui fonctionne aux alentours du XVIIIe siècle et qui a très très bien fonctionné, notamment dans ce monde celtique là dont on parle, et surtout chez les Britanniques, à une époque qui n'est pas n'importe laquelle, c'est-à-dire c'est au moment où justement on assiste à la naissance du Royaume-Uni. Donc le Pays de Galles, l'Écosse se retrouvent en quelque sorte orphelins de leur propre culture. Et donc, c'est justement le moment où on découvre un peu cette langue, ces langues celtiques, etc. Et tout. Et on va se servir de ça pour donner une culture, une tradition au Pays de Galles, à l'Écosse, un peu plus tard à l'Irlande, un peu plus tard à la Bretagne.
Avec une figure, puisqu'on parle de tradition inventée, dont alors maintenant on a un peu oublié, mais qui joue un rôle extrêmement important, aussi bien culturellement que même dans l'histoire de la littérature, en annonçant le romantisme, qui est la figure d'Ossian, qui est une histoire assez incroyable, puisque c'est comment un faux produit du vrai, de toute façon, dans la mesure où l'influence d'Ossian, vous allez nous expliquer qui est cet Ossian, voilà. A joué dans la littérature européenne un rôle extrêmement, extrêmement important.
Absolument.
Même au-delà de la question celte. Hein.
Oui, Ossian, on l'a un petit peu oublié. Enfin, je ne sais pas si certains parmi vous connaissent un peu, mais enfin, Ossian, c'était la grande vedette du tout début du romantisme, et notamment Napoléon Ier était très, très intéressé par Ossian. Il avait le grand tableau de Ingres dans un de ses châteaux, alors je ne sais plus lequel, enfin c'est celui où on voit ce poète Ossian, enfin, c'est un tableau monumental. Chateaubriand, qui a lui-même traduit, enfin qui a traduit en français les œuvres d'Ossian, et puis Germaine de Staël, par exemple. Donc, c'est effectivement une supercherie qui a été produite par celui qui disait en être l'éditeur, donc Macpherson, dont on s'est rendu compte plusieurs décennies plus tard qu'il avait produit des faux, qu'il avait inventé ce personnage, donc qui serait un barde du très haut Moyen-Âge qui rendrait en quelque sorte l'âme celte à travers ses poésies. Or, quand on lit ces poèmes, je ne sais pas si certains parmi vous les ont lus, donc j'ai fait l'essai, et franchement, c'est assez étonnant. Ça vieillit, puis surtout, je ne vois pas du tout ce qui est celte dans tout ça. Donc, parce que ça c'est mal situé, c'est mal daté dans son écrit, dans les épisodes et tout, à tel point que les différents peintres, comme Ingres, mais il n'est pas le seul, il y a Chassériau, enfin, il y en a d'autres, qui ont essayé de représenter Ossian ou les personnages d'Ossian, ont été extrêmement ennuyés parce qu'ils ne savaient pas du tout comment les vêtir, les armer, etc. Parce que dans le texte de Macpherson maintenant, tout ça est extrêmement flou. Mais ça a eu un succès absolument considérable parce qu'on a dit que c'était en quelque sorte l'Homère des Celtes et l'Homère surtout de tous les peuples de, d'Europe occidentale qui, encore une fois, sont des orphelins de la civilisation gréco-romaine. En fait, on s'aperçoit que tous ces peuples n'ont pas supporté de ne pas être les descendants directs, comme les Italiens, par exemple, des Romains ou des Grecs. Et donc, il fallait absolument recréer quelque chose. Et donc, en fait, ces traditions inventées, donc là, Macpherson en est un excellent représentant, répond à cette attente. Alors, on a aussi en France Villemarquet, donc Ersart de Villemarquet, avec le Barzaz-Braise, qui aussi était soi-disant une simple retranscription de chants bretons, etc. Et on s'est aperçu aussi, après plusieurs décennies, que c'était un faux parfait.
Oui, c'est ce que vous dites, avec aussi cette idée, ce que vous appelez la convergence des imaginaires. C'est quand même l'idée que, alors maintenant on a du mal à se représenter comment ça a fonctionné, parce que nous ne sommes plus dans la nécessité de recherche d'identité où était ce qui est venu combler en fait ces faux-là. C'est-à-dire que ces faux-là, effectivement, ont fonctionné aussi, on peut évoquer cette hypothèse-là, parce qu'ils arrivaient au bon moment par rapport à un imaginaire pré-romantique sur l'ensemble de ces questions-là, de l'origine, de sortir effectivement de la question gréco-romaine, mm-hmm. où on sortait de quelques siècles de classicisme et néoclassicisme, et qu'il fallait s'inventer une autre tradition pour se réinventer aussi. Ça, vous le dites au début du livre, la revendication de la celtité, si on peut dire ça, elle a quand même ce mérite-là qui est d'être non étatique, d'être plus ou moins en opposition, d'être original, d'être à part, d'être une sorte d'histoire alternative. Enfin, mm-hmm. sans pousser jusqu'à une logique complotiste, elle a quand même elle fonctionne aussi par ce biais, par ce ressort psychologique-là. On peut même considérer, est-ce que, avant d'évoquer ce dernier point, qu'actuellement, elle fonctionne par ce ressort psychologique-là, qui est nous sommes différents des autres, on a une histoire originale. Mais avant d'en arriver là, elle en est aussi arrivée là aujourd'hui, parce qu'avant, elle a traversé, on va dire, ce qui va être un peu le moment le plus noir du celtisme, du panceltisme, qui est que, ce que nous évoquions tout à l'heure, la recherche de tout ce qui est l'originel, la langue originelle, la tradition originelle, enfin ce que les Allemands appellent le Ur, va aller jusqu'à pousser une partie du panceltisme dans les bras du nazisme.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce dernier moment, avant le moment contemporain, à quel moment on passe de la tradition populaire réinventée, où on embarque tout dans les Celtes, à savoir aussi bien Carnac que Stonehenge, que tout ce qui nous tombe sous la main et qu'on ne sait pas interpréter, tout en sachant simplement que ce n'est pas romain, jusqu'au moment où effectivement ça devient vraiment un élément structurant quasiment uniquement idéologique?
Oui, bah ça on le voit, c'est avec l'idéologie européenne, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas vous refaire un petit peu l'exposé de ce que sont ces théories, disons que les Celtes ont une grande part dans cette construction, c'est-à-dire que ça a été en quelque sorte le meilleur exemple. Et l'un des plus imagés, pourtant on trouve qu'il n'est pas très documenté, mais pour ces gens-là, c'était quand même ce qu'ils avaient de plus imagé, ces Celtes qui leur ont paru un groupe tout à fait intéressant, important de ces Indo-Européens. Les Indo-Européens, vous savez, on les fait venir d'Asie, enfin de l'Est. Et autour de la découverte du sanskrit, donc qui serait porté par les Aryas, et qui, effectivement, dans les théories pré-nazies, a permis aux Allemands de développer cette idée que les Allemands étaient les descendants les plus purs de ces Aryas, disons, du monde indien, en quelque sorte, et qu'ils en étaient vraiment les descendants directs, en quelque sorte. Et les Allemands, très tôt, et surtout les tenants de la thèse indo-européenne, ont fait des Celtes un groupe un petit peu particulier, au même titre que les Hellènes, donc qui forment aussi un groupe assez semblable dans cette théorie indo-européenne, à celui des Celtes, qui sont des proches des Aryens. Donc ce sont des gens qui se sont en quelque sorte contaminés, qui ont perdu leur pureté originelle, mais enfin moins que les autres. Donc, pour les Aryens, et notamment pour les idéologues nazis, les Celtes et les Hellènes, et donc par conséquent leurs descendants, sont des gens fréquentables. Et effectivement, ça va donner, disons, au moment du Reich, des chercheurs, et notamment qui vont devenir des archéologues, et c'est pour ça qu'on va déboucher sur la dernière partie de l'ouvrage, donc des archéologues qui vont être entraînés dans ces divagations, parce que le Reich va demander à un certain nombre de chercheurs, et à deux particulièrement, d'étudier en quelque sorte quelle est la place des Celtes par rapport à ces Ariens présumés. Alors, l'un va travailler en France essentiellement parce qu'il a pour mission d'aménager le grand musée de Trèves qui va montrer en quelque sorte tout ce que la germanitude a fait dans l'ouest de l'Europe. Et l'autre va travailler sur la période ancienne qu'on appelle en archéologie la période des champs d'urnes. Donc, si vous voulez, c'est l'âge du bronze. Donc, en quelque sorte, les pré-Celtes. Et donc ces deux individus vont faire des travaux très importants, notamment en France, pour montrer qu'il y avait déjà une présence germaine. Donc les Germains sont les Ariens authentiques, en quelque sorte, les derniers avatars des Ariens. Donc il y avait une présence germaine à la fois par ces champs d'urnes qui existent en France, hein, donc pour l'époque de l'âge du bronze, et puis aussi parce qu'il y a eu ces invasions germaniques avec les Francs, etc. Donc là, on se trouve avant la guerre, donc avec deux jeunes chercheurs, donc je donne les noms parce qu'en plus je les ai très bien connus moi-même, donc c'est Wolfgang Kimmich et Wolfgang Denn, qui étaient des SS. Et ils avaient été SA, ensuite SS. Et quand ils se font arrêter en 1945, l'un et l'autre, en France d'ailleurs, très vite ils sont déportés dans un camp de dénazification, et en réalité c'est une ferme en Bavière. On les y laisse 6 mois, et ensuite ils reprennent leur place à l'université. Donc l'un, Kimmich, vient à Fribourg, donc près de la frontière française, où il devient président de l'Institut de préhistoire. Et Eden regagne son université de Marbourg, où très vite il va devenir aussi lui président de cet institut de pré et de proto-histoire. Or, après la Seconde Guerre mondiale, enfin dans les années qui suivent, évidemment, on ne peut plus, et eux ne peuvent plus, continuer à parler de germain. Ça n'est plus possible, c'est extrêmement mal vu. Et il faut en faire quelque chose de ces germains. Et ils vont reprendre la vieille recette des humanistes huguenots. Ils vont dire, nos Germains, c'est une partie des Celtes. Et ils vont remplacer leurs anciens Germains, qui étaient des Ariens, en des Celtes. Et ces Celtes, on va en quelque sorte en faire un groupe aussi important que les anciens Ariens. Et ils vont prendre donc cette place géographique. Et ils vont vendre ce modèle-là aux pays de l'ancien bloc de l'Est, avec lesquels l'Allemagne fédérale avait des contacts extrêmement suivis, notamment en matière de commerce, en matière de technologie, mais aussi d'idéologie. Et ce modèle des Celtes, qui serait en quelque sorte les ancêtres des Germains, mais aussi les ancêtres des peuples de l'Europe centrale, va connaître un immense succès dans les pays de l'Est. Et c'est pour ça que ces théories sur les Celtes, cette théorie archéologique en Tchécoslovaquie, en Hongrie, un petit peu en Pologne, a connu un très très grand succès parce que ces chercheurs ont proposé à des nations des ancêtres à une période antique alors qu'ils n'en avaient pas. Donc là encore, on répond à cette attente toujours généalogique, toujours cette même histoire.
Et ce que vous montrez pour finir, vous avez rappelé justement au début que vous étiez aussi archéologue, mais c'est extrêmement important dans la mesure où vous montrez bien que de nos jours, la vision strictement archéologique des Celtes est extrêmement extensive. Donc en fait, on se retrouve encore quasiment à nouveau avec quasiment toute l'Europe, mais pratiquement toute l'Europe est celte. Dans ce chapitre sur les mirages de l'archéologie, vous montrez qu'effectivement, systématiquement, on est à la recherche d'éléments matériels, de civilisationnels, puisqu'il n'y a toujours pas d'écriture, qui pourraient les manifester. Et entre autres, vous montrez la limite de ce qui s'est appelé la New Archaeology, c'est-à-dire l'idée que l'archéologie seule peut dire ce qu'est une culture, une civilisation, au dépens de tout texte historique, ce qui est assez pratique avec les Celtes et les Gaulois.
Voilà, c'est ça.
et ce à quoi vous vous opposez fermement en disant non, l'archéologie est la servante, si l'on veut, de la discipline historique. Oui. Et on ne peut pas laisser à l'archéologie seule, et on voit qu'elle... dans quels errements ça nous met, qu'ils soient d'ailleurs idéologiques ou scientifiques. Hein. Mmh. Et au contraire, donc, actuellement, le combat n'est pas gagné, mais ce que vous évoquez d'une certaine façon à la fin du livre, c'est que est-ce que les siècles d'invention celte où nous sommes encore nous permettent de sortir du mythe. Est-ce que en fait les gens sont tellement liés à cette image du celte que d'une certaine façon c'est vous tenter d'inverser la vapeur, mais que c'est compliqué.
C'est un petit peu peine perdue, je pense. Oui, alors je ne sais pas quoi vous dire.
Non, mais sur l'archéologie, parce que ça me semble important.
Oui, sur l'archéologie.
Dans la mesure où, d'abord, c'est une discipline qui est forcément très très bien connue et vous montrez bien les enjeux scientifiques.
Voilà, oui. Je voudrais rappeler que moi, je suis archéologue, mais je suis un archéologue un petit peu particulier. Effectivement, je considère, mais votre formule est très bonne, que l'archéologie est la servante. En fait, l'archéologie, c'est un petit peu comme la médecine. Ce n'est pas une science, c'est un ensemble de techniques qui bénéficient parfois de véritables sciences comme la paléontologie par exemple, l'étude des pollens par exemple, mais c'est pas avec ça qu'on va faire un discours historique. Et le but de l'archéologue, enfin moi ça a été toujours mon but et ça le sera jusqu'à temps que je meure, c'est de produire de l'histoire. Ce n'est pas de produire un discours archéologique qui se voudrait neutre, qui se voudrait en quelque sorte d'une neutralité qu'il n'aura jamais, alors qu'on a effectivement des textes historiques qui ne sont pas ceux qu'ont produits les Gaulois, quoique il y a quand même un certain nombre de choses qui existent, puisque les druides ont fait aussi de l'histoire, donc on a quelques échos de cette histoire qu'ils ont produite, mais on a des textes très importants, des auteurs grecs, des auteurs romains, qu'on ne peut pas laisser de côté, comme l'a prétendu la New Archaeology. Donc la New Archaeology, c'est une théorie archéologique qui est apparue aux États-Unis, où elle avait des raisons d'apparaître, puisque c'était une théorie qui était adaptée aux recherches sur les Amérindiens, donc effectivement des indigènes qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas d'écrit, sur lesquels on ne connaît rien. Et donc là où la seule chose qu'on peut faire sur eux, c'est effectivement étudier leurs restes archéologiques. Et donc les Américains ont prétendu que l'archéologie n'avait pas besoin des textes antiques. Mais cette question-là ne se pose pas du tout de la même manière en Europe et surtout en France, où il y a eu cette Gaule et où il y a eu toute cette production de discours historiques. Là, ça ne marche plus. Et donc, effectivement, dans les théories actuelles, vous avez tout un tas d'ouvrages d'un certain nombre de mes collègues prédécesseurs, des gens comme Venceslas Kruta, qui ont beaucoup parlé des Celtes et qui en disent des choses parfaitement contradictoires avec ce que je dis. Ces gens-là sont influencés notamment par cette façon très particulière d'utiliser ou de ne pas utiliser les textes antiques. Donc moi, j'ai eu dans mon équipe de recherche des collègues qui eux-mêmes, pendant un temps, prétendaient qu'on n'avait pas à se servir des textes antiques. Et moi-même, quand je me suis présenté au CNRS il y a 30 ans, le fait de déclarer d'emblée que mon programme serait d'allier les travaux archéologiques et les sources antiques grecques et romaines, j'ai failli ne pas être pris parce que ce n'était pas du tout l'air du temps il y a 30 ans. Maintenant, c'est devenu totalement le contraire. Et donc, j'ai mes collègues qui, pendant un temps, ne désignaient pas ces gens dont on parle. Donc, tantôt, on dit qu'ils sont gaulois, tantôt qu'ils sont celtes. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Donc, ils ne les désignaient pas. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce n'est plus tenable. Et ça leur a paru plus facile, encore une fois, d'utiliser le terme de celte. Vous voyez, on retombe toujours dans ces problèmes de généalogie et de dénomination. Et on aboutit à quelque chose, et c'est un petit peu la conclusion de mon ouvrage, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toutes ces idéologies diverses, hein, qui s'appuient sur des sciences sociales différentes, aboutissent finalement à la généralisation. Or, ce n'est pas le but, enfin, me semble-t-il, ce n'est pas le but de l'historien ou du scientifique en général, d'aboutir à des généralisations. Notre but, c'est plutôt d'aboutir à des spécifications, d'essayer de comprendre quelle était l'identité des gens. Et à la limite, quand on peut désigner un peuple comme celui des Éduins, sur lesquels on a une abondante littérature parce qu'ils ont joué un rôle très important avec Rome, il faut parler des Éduins exactement comme l'historien grec Polybe le faisait. Donc en Cisalpine, quand il... Il rencontrait des peuples dont il connaissait le nom. Il disait, ben, ceux-là, ce sont des insubres, ce sont des cénomans. Et il ne cherchait pas à savoir s'ils étaient celtes ou gaulois. Et donc, notre travail doit aboutir à ça. C'est d'essayer d'individualiser ces peuples, de comprendre leur culture, leur identité, leur histoire, et non pas mettre tout ça dans un sac. Hein, c'est la formule de Tolkien que j'ai reprise. Qui finalement a abouti à une confusion et qui est l'inverse, à mon avis, de l'histoire.
Écoutez, merci beaucoup. C'est une belle définition de l'histoire que s'interrompt la conférence.